Bonjour tout le monde, j'ai cette chance de venir après ces deux interventions qui sont tellement différentes et mettre un peu mon expérience de musicien. Donc je suis d'origine yougoslave. Donc tout à l'heure, Laurent nous a montré la belle carte de cette partie-là, sauf qu'elle est un peu datée, les frontières n'étaient pas bonnes. Et comme là, ça s'appelle No Border, là, franchement, venir des Balkans, je sais de quoi je parle quand je parle des frontières. Quoi. Mais bon, si on parle de la musique, alors là, par contre, je suis tout de suite d'accord que les frontières et des règles, ce sont des choses qui, à mon avis et de mon expérience, les règles dont on a parlé pas mal lors des deux précédentes interventions, je pense que c'est pas les règles qui donnent la musique, mais c'est la musique qui peut nous suggérer certaines règles, d'où toute cette relation entre la théorie et la pratique de la musique. Je me proclame un musicien de jazz parce que c'est dans cette musique-là que j'ai retrouvé l'énergie qui m'a donné envie de faire de la musique. Aussi parce qu'il y avait cette notion d'individualité, c'est-à-dire que chacun de nous réinvente la roue, réinvente les accords, les mélodies, etc., etc. En tout cas, on a cette impression quand on commence. Et moi, je me rappelle très bien du jour où j'ai découvert le La mineur 7. C'est moi qui l'ai inventé. Je passais une semaine à le jouer, à me dire, ah, ça, c'est formidable. Donc, dans ce parcours-là, c'est ce que je peux observer, c'est que j'ai eu cette chance de me d'abord poser des questions. Qu'est-ce que c'est ces modes? Qu'est-ce que c'est ces mélodies? Qu'est-ce que c'est ces notes, ces rythmes, etc.? Puis par la suite, trouver des réponses à ces questions. Et je trouve que c'est assez important aussi. Il y a des tendances que ça change, parce que dans le jazz, d'abord, on a eu des grands noms de cette musique, des grands créateurs de cette musique qui ont été complètement illettrés, pour la plupart. Ils ne savaient pas ni lire ni écrire la musique, mais ils avaient les oreilles et puis ils avaient envie de communiquer une musique. C'est qu'à partir des années 60 que les écoles ont été établis et qu'aujourd'hui on a un phénomène donc de beaucoup de musiciens qui connaissent beaucoup de théories et des règles et des modes et des règles et comment on peut les rythmes, etc. Mais disons qu'il y a beaucoup moins d'individualité forte et moi c'est là-dessus que j'essaye, enfin que je m'interroge personnellement pas mal de choses. Maintenant pour revenir sur dans le creux de l'idée de l'improvisation modale. Donc, je pense que, encore une fois, de mon propre expérience, une mélodie qui est jouée donc, dans le cadre d'un mode donc, fixe ou pas, suggère déjà par elle-même pas mal de choses. C'est-à-dire que la plupart des exemples qu'on a eus avant, à mon avis, sont assez orientaux. Et pour moi, être né à Belgrade et avoir étudié la musique là-bas, la question s'est posée tout simplement par la musique qui était écoutée. Donc, j'ai écouté énormément de la musique rock européenne, la musique classique, bien évidemment, que j'ai commencé à étudier à l'âge de 5 ans. Et bien évidemment, il y avait cette musique qui était omniprésente devant la fenêtre, dans la rue, dans les bars, qui s'est avéré être donc la musique, le folklore, donc, etc., etc., qui était rejeté par les citadins. Qu'il y a ça aussi qui est assez intéressant, parce que c'était regardé un peu comme la musique qui sont les oignons et la boue et l'odeur des tchevapchichi, pleskavitsa, etc., et la rakia. Donc, par les musiciens dites modernes, c'était regardé un peu comme quelque chose à éviter à tout prix. Ça a changé aujourd'hui, donc cette relation entre les musiciens des musiques dites modernes et savantes par rapport aux musiciens de la musique folklorique. Dans plusieurs sens, donc il y a déjà c'est les oreilles qui ont fait la différence, c'est-à-dire que tout le monde a commencé à écouter tout ça et puis ils se sont retrouvés dans la position de devoir refaire ce qu'ils entendent. Et moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé d'une part aussi dans la musique modale et aussi dans l'improvisation avec la musique modale. Donc vous entendez une émotion qui provient d'un mode ou d'une gamme Puis on vous dit, ben, vas-y, joue. Ah. Bon, ben, je vais jouer. Et donc, automatiquement, on entre un peu dans ce côté individuel aussi, qui, encore une fois, se différencie bien de toutes les règles, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, etc. Et quelque part, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti vers la musique du jazz. Ce qui n'empêche pas que, une fois qu'on vous joue une mélodie qui est clairement issue d'un mode, d'une gamme, où on ne sort pas de ce cadre-là, vu qu'il a une suggestion de l'harmonie, la deuxième chose qui commence à donner envie au musicien qui joue avec celui qui joue la mélodie, c'est d'essayer d'ajouter les éventuelles notes de basse. La fonction qui n'existait pas dans la plupart des musiques dites populaires ou folkloriques, il n'y avait pas des instruments de basse. Ça, c'est assez nouveau. Et donc, automatiquement, dès qu'on entre dans les notes, donc ça nous donne le cadre, la mélodie, elle est là-haut, et la note de basse, elle est en bas. Et toute cette espace qui est au milieu est quelque chose qui nous donne la possibilité d'harmoniser. L'harmonie est quelque chose qui, à mon avis, tout d'abord suggéré par les modes. Et c'est là-dessus donc, que chaque musicien, avec ses connaissances et les reconnaissances auditives, puis par la suite théoriques, peut jongler là-dedans et faire la musique plus ou moins intéressante. Pour moi, c'était assez intéressant. Hier, j'ai regardé une partie de concert de Tenori Sardi. Et j'ai vu que la salle, globalement, réagissait sur les notes où on sortait des modes. C'était assez marrant de voir ça. Donc, des musiciens, ils chantaient, ils étaient dans le cadre d'un même. Hop, on s'approchait d'une note, et là, toute la salle a fait « Oh, ouais, bon !» Donc, voilà, je trouve que ce jeu, il est définitivement basé sur la tension et le relâche. Et le public, même sans savoir ni de quel mode il s'agit, ni de quoi il s'agit, peut ressentir cette intention et ce résultat musical. Donc j'aimerais bien, en fait, stresser un peu, vu mes origines géographiques et vu que c'était déjà touché pas mal par ce que Laurent a montré. J'aimerais bien montrer un peu des parallèles ou la manière dont ça peut être mélangé avec le monde harmonique. Donc, quelques exemples que je vais essayer de passer en rapidité. Donc ça, c'est l'exemple d'un enregistrement fait par Alan Lomax, je crois, dans l'année où je suis né, en 1968. Il s'est baladé partout dans ce qui fut la Yougoslavie. Et ça, c'est donc à quelque part en Macédoine qu'il a enregistré un jour de Gaïda, donc la cornemuse locale, quoi. Ah oui, pardon, Zurno. C'est pas la cornemuse, c'est la bombarde balkanique. Ça se développe, et puis que si je vais avancer un peu parce que le tempo il monte, le volume par contre il baisse, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Thank you. Donc voilà, je vais l'arrêter ici parce que ça, c'est juste l'exemple de qu'est-ce qu'on a ici. On a une mélodie définitive modale. Ça reste donc avec le bourdon qui nous donne le centre tonal et le rythme. Donc après, ce qui est intéressant, c'est la manière dont des autres traitent la même chose. Ivo Papa, sauf si c'est définitivement quelqu'un qui va être cité aujourd'hui, parce que je vais le donner un peu en exemple. Donc comment la musique modale, après, peut être mélangée avec l'harmonie savante, n'est-ce pas? C'est un peu ça qui est intéressant. Donc, il est où? Il est là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Ivo Papasov improvise. Parfois, c'est lui par ses mélodies, va suggérer le changement du mode ou le changement de l'harmonie. Et vice-versa, parfois, c'est celui qui l'accompagne qui va lui proposer des harmonies sur lesquelles il va réagir. Et je trouve ça marrant parce que autant qu'improvisateur qui connaît aussi l'harmonie, c'est ça qui se passe en fait dans mon propre processus dans l'improvisation. Je pense que parfois c'est la main qui va par là, puis la tête reprend le contrôle, et parfois c'est la tête qui imagine quelque chose et la main peut-être elle va aller dans le chemin où la tête a imaginé. Donc c'est un peu ce qui se passe au sein de cet exemple où Ivo va jouer et il va être accompagné par l'orchestre. Donc là, c'est clairement modal, sauf que c'est colorisé par les harmonies. C'est ça qu'on peut observer ici. Je suis pas sûr, mais je pense qu'Ivo ne lit pas la musique. Tu le sais ? Il lit ? Un peu. Un peu. Voilà, je continue le thème. Etc. Je vous donne un autre exemple pour moi qui est assez spécifique pour la musique des Balkans, qui justement mélange ce côté modal avec toute la connaissance harmonique qui nous vient plutôt de la musique savante d'Europe occidentale. Ça, c'est un exemple aussi qui est fait dans un pays comme la Bulgarie, qui a eu cette, à mon avis, bonne idée d'introduire la musique folklorique dans les écoles. Tu as mentionné tout à l'heure vers les années 50, c'est ça ? Quelque part après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est ça qui a donné le résultat, comme ce morceau qui, en gros, donc le fameux disque des mystères des voix bulgares. Donc ça, j'ai eu cette chance d'entendre cet enregistrement qui a été fait dans les années 75-76, donc quelques quinzaines d'années avant que c'était mis sur un support et que c'est devenu que c'était proposé donc à vous ici dans l'Europe occidentale. Et ces enregistrements sont un exemple des arrangeurs qui ont définitivement une éducation de la musique classique, et qui ont pris donc les chansons chantées à la manière traditionnelle, donc très modale, et qu'ils ont colorisé en écrivant les arrangements qui sont tout simplement somptueux. Et quelque part, en faisant ça, ils n'ont pas diminué la force de la mélodie et de ce qu'elle peut porter. Et c'était pour moi un peu l'exemple que j'utilise aussi moi quand je me retrouve dans cette situation d'arranger des airs traditionnels. J'essaye de leur donner quelque chose de moderne ou de différent. Malheureusement, j'ai pas amené mes exemples. Je suis tellement altruiste que je vous donne que mes inspirations. Mais bon, pour les curieux, vous pouvez trouver ce que j'ai fait. Notamment, j'ai travaillé les deux derniers disques d'une chanteuse bosniaque qui s'appelle Amira Medunjanin. Là, vous pouvez, enfin, ça se trouve sur YouTube. Vous pouvez même acheter, enfin bref, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez vieux jeu. Mais on va aller par là. Voilà l'exemple de la beauté divine. Vous pensez bien que ça continue, donc ça aussi vous pouvez trouver sur YouTube. Le jour où j'ai entendu ça, moi je suis devenu tout petit comme ça, et puis ça m'a fait plein de choses. Et donc je suis rentré à la maison et j'ai essayé de voir de quoi il s'agit. Et ce qui est marrant, c'est que cette harmonisation, qui est très typique en fait, qu'on peut découvrir chez pas mal de grands compositeurs classiques, du genre Aram Khachaturian, etc. Donc, c'est toujours un peu des mêmes trames. Donc là, on peut voir qu'il y a un peu des clichés qui se représentent, comment harmoniser donc et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment très utile, en tout cas pour les musiciens actifs, de d'abord essayer de faire des choses à l'oreille avant d'entrer dans des connaissances de comment ça s'appelle, etc. Et j'ai vraiment des doutes à quelle mesure les musiciens qu'on vient d'écouter. Là, par exemple, je sais que Husnu Selendrici, lui, effectivement, il sait de quoi il parle parce qu'il a eu une éducation classique aussi. Et quelques-uns des autres, mais la plupart des joueurs gitons, ils savent, je pense même pas qu'ils savent comment s'appellent les makams, ni quel makam, ni quoi que ce soit. Tout simplement, ils jouent. Et après, les autres, c'est pareil. Et comme ils passent tout simplement 60 ans ensemble, depuis la naissance jusqu'à la mort, et puis ils jouent tous les jours. Ils sont juste habitués de savoir de quoi il s'agit. Et donc ce genre de proposition, de changement, on est dans ce monde-là, et puis moi je m'arrête sur cette note-là, c'est quelque chose dont tu as fait des analyses, qui est génial, mais franchement je me demande à quelle mesure Ivo lui-même, il sait ce qu'il a accouché derrière lui. Ça, je pense pas qu'il en est conscient. Donc voilà, et il y a juste cette notion assez importante que j'observe, qui est la notion de l'individualité. Même si je prends l'exemple des chorales, donc des voix bulgares, c'était un groupe de 5-6 arrangeurs donc, qui écrivaient des arrangements pour la chorale. Et c'est là-dessus qu'on voit, bien évidemment, c'est là que je mets mon goût personnel. Donc, il y en avait certains qui, sans regarder la pochette, je sentais que ça c'est moi. Et il s'est avéré qu'il s'agit de la même personne qui s'appelle, c'était un arrangeur, un musicien bulgare qui s'appelait Krešimir Kurdjevski. Et parmi les 5-6 arrangeurs qu'on trouve dans les arrangements faits pour les voix bulgares, c'est lui qui avait le moyen d'harmoniser donc ces mélodies d'une manière qui m'a en tout cas touché beaucoup plus que les autres. Conclusion, d'abord les oreilles et puis jouer, puis après vous pouvez trouver des réponses à vos questions, mais je pense que c'est un processus tout à fait normal de se lancer dans des improvisations modales et tout ce qui peut provenir de là, c'est-à-dire les ouvertures vers l'harmonie, sans oublier le rythme. Merci beaucoup.